Bonjour et bienvenue. Au microphone, Claude Julien, en compagnie de Francine Robert. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Toujours heureux d'être en votre présence pour ces commentaires que vous nous faites. Je rappelle que Francine Robert est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Le récit qui est proposé à la prière de nos déchrétiens en cette fin de semaine est assez long, comme d'ailleurs celui de dimanche passé, et disons-le tout de suite, celui de dimanche prochain. Voilà pourquoi nous nous permettons de ne pas en faire lecture, parce que, on passerait une partie de l'émission à le lire. Il s'agit du récit de l'aveugle de naissance, la guérison, pardon, de l'aveugle de naissance que l'on trouve au chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Et je suis convaincu que les gens qui nous écoutent vont se précipiter sur leur Nouveau Testament pour relire tranquillement, n'est-ce pas, ce récit. Bon, alors, allez-y Francine pour une présentation au moins au niveau de la structure, là, hein, oui. Combien d'étapes, etc.
Oui, on a intérêt à faire ça parce que même si on appelle ce récit la guérison de l'aveugle-né, en fait la guérison n'occupe que 7 versets et ce récit va du verset 1 au verset 41. Donc il y a bien d'autres choses que la guérison de l'aveugle-né. En fait, cette première étape du récit de la guérison elle-même est suivie d'une deuxième étape beaucoup plus longue, les versets 8 à 34, qui présente une série de discussions et de débats entre divers groupes de personnes, et incluant l'aveugle d'ailleurs, à propos justement de cette guérison et à propos de Jésus aussi. Et il y aura une troisième étape qui vient comme clôturer le récit. Ce sont les versets 35 à 41 où Jésus reprend le dialogue avec l'aveugle, pardon, et va donner aussi une conclusion sur le sens de ce qui vient de se passer. Alors, ça veut dire que Jésus est absent de la plus grande partie de ce récit. Il est au début, il est à la fin. Et il est absent de la longue section de discussion.
C'est ça, hein? Parce que la longue section de discussion, ça se passe entre l'homme qui a été guéri, oui. Ses parents, les pharisiens,
les voisins, c'est ça. Et donc, ça devient un petit peu... Il est présent parce qu'on parle de lui. Il n'est pas présent, Jésus, dans cette section-là, sinon comme celui dont on parle. Par contre, comme on parle de lui, ce qui est dit à son propos est un élément important de tout le récit. De la première étape jusqu'à la dernière étape, il y a des éléments de révélation de l'identité profonde de Jésus, ce qui est typique de l'Évangile de Jean, bien sûr.
Comme on a eu avec la Samaritaine, oui, la semaine passée, dans le dialogue, là, il y avait une révélation progressive, oui, étape par étape de la personne de,
oui,
Jésus.
Et on aura ça ici, entre autres du côté de l'aveugle-né, un peu comme la Samaritaine, qui va représenter une sorte de cheminement personnel dans la découverte progressive de l'identité de Jésus. Alors, on y sera attentif et on soulignera aussi quelques autres aspects au fur et à mesure du commentaire.
Alors, on y va avec la première étape,
oui,
qui est, comme vous disiez, qui est carrément le récit de la guérison.
Hein,
qui,
c'est
seulement sept versets.
Si on était dans Matthieu, Marc ou Luc, on aurait ça, point. Ça s'arrêterait là, probablement. Et donc, on a Jésus, les disciples, qui n'apparaissent que dans cette étape-là, d'ailleurs, et l'aveugle, qui ne dit rien du tout. Il va parler beaucoup dans toute la suite du récit. Un autre point commun entre cette première étape et la toute dernière est amené par la question posée par les disciples. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Vous voyez donc ce lien qu'ils établissent entre le fait d'être aveugle et le fait d'avoir péché. Ce lien-là va revenir aussi dans l'étape finale. Alors, ici, Jésus exprime son désaccord avec le lien qu'ils font. Le lien qu'ils font, c'est un lien de cause à effet. Parce qu'il a péché, lui ou ses parents, il est aveugle. Le péché cause la maladie.
Oui, c'est ça. Alors, rappelons, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, ce que les disciples demandent à Jésus, l'homme qui est aveugle, est-ce que c'est parce qu'il a péché ou parce que ce sont ses parents?
C'est ça.
C'est ça le dialogue.
Et donc, le péché cause.
Jésus ne répond pas.
C'est-à-dire, oui, il s'oppose. Il dit, ouais, non, c'est ni un ni l'autre.
Ah, OK, et dans donc, ce sens-là, il y a une réponse.
Il est en désaccord. Il ne répond pas à la question posée, sinon en disant que ce n'est pas la bonne question.
C'est ça.
C'est ça. On peut dire il exprime un désaccord sur ce lien de cause à effet entre le péché et la maladie. Il va revenir sur le lien péché-aveuglement à la fin, dans la troisième étape, donc à la toute fin du récit, en inversant le lien. C'est-à-dire, cette fois, en disant celui qui est aveugle, il est sans péché. C'est celui qui prétend voir et donc qui se dit ne jamais être aveugle, c'est celui-là qui reste dans le péché. Et c'est une conclusion assez dure que la suite du récit va aider à comprendre un peu, j'espère en tout cas. Toujours dans cette première étape, on peut signaler ce qui est dit à propos de Jésus, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un filon de tout le récit. Alors, bon, ce que Jésus dit de lui-même ici, « Je suis la lumière du monde », hein, c'est très connu comme expression. On peut rappeler que...
Le contexte, donnez-nous donc le contexte,
oui,
justement.
La fête des tentes,
voilà.
Dites aussi la fête des huttes ou des cabanes ou sous-côtes. Des désignations pour cette fête d'automne qui dure une semaine.
Très importante fête.
Oui, une des trois grandes fêtes de pèlerinage de la foi juive. Et il y avait une mention de cette fête au chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Et comme il n'y a pas d'autres indications, ni de temps, ni de déplacement depuis cette mention-là...
On serait toujours dans ce contexte-là.
On est toujours. Peut-être, historiquement, on n'en sait rien, mais littérairement, Jean construit...
son œuvre,
les
reconstruit
récits,
son œuvre dans cette...
Oui, les récits dans ces chapitres 7, 8, 9 et 10 jusqu'au verset 21 sont placés en termes littéraires dans le contexte de la fête des tentes, qui est une fête dont on parlait un tout petit peu, je pense, il y a deux semaines pour la Transfiguration, parce que c'est une fête où le rite de la lumière est très important. Et on se rappelle Pierre qui disait « faisons trois tentes ». Alors, il y a donc l'importance de la lumière, parce que cette fête célèbre Dieu qui guide son peuple comme il le guidait au temps de la marche au désert. Alors, on voit bien que Jean, l'évangéliste, c'est ce qu'il fait en plaçant dans ce contexte une déclaration du genre « Je suis la lumière du monde hein? ». Et surtout qu'il nous a déjà dit au chapitre 8 « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres ». Jean est en train de nous proposer Jésus comme la nouvelle présence de Dieu qui guide son peuple. Hein? Le suivre, c'est marcher dans la lumière.
Et c'est ça, tout ce que vous venez de dire précède le récit de l'homme qui va accéder à la lumière,
d'une certaine façon. On est invité à voir la guérison de l'aveugle comme étant l'accès à la lumière. Jésus le conduit à la lumière. Et ce qu'il nous dit aussi de lui-même, toujours dans cette première étape, c'est qu'il est, il travaille aux œuvres de celui qui l'a envoyé. Et donc, ce titre d'envoyé va revenir un peu plus loin. Avant d'y venir, je me rappelle à nos auditeurs aussi que l'aveugle, pour être guéri, doit se présenter à la piscine de Siloé. Ce qui fait intervenir donc la symbolique de l'eau vive qui était déjà présente la semaine dernière
avec la Samaritaine.
Oui. Mm-hmm. Et ça évoque un autre grand rite de la même fête des tentes. On allait en procession solennelle le matin puiser de l'eau justement à la piscine de Siloé. En se rappelant aussi que dans certains écrits de la foi juive, l'eau vive elle est métaphore ou symbole de la Torah, de la loi de Moïse, qui va être très présente dans la suite du récit. Donc, l'eau n'est pas accessoire. Elle est vraiment là, chargée de signification.
C'est ça. Et l'auteur ajoute une information concernant cette piscine de Siloé qui signifie « envoyer ».
Oui, donc il nous signale en disant à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer, il nous signale que le rôle d'envoyer, que Jésus vient de désigner comme étant son rôle, c'est important dans la perception qu'on doit avoir de Jésus. Ce qui nous rappelle qu'on ne doit pas uniquement, c'est un anglicisme qui me vient, focusser sur Jésus, mais il est envoyé d'un autre. Et donc, ça nous appelle à regarder vers Dieu, vers le Dieu qu'il nous révèle, et pas seulement sur lui.
Oui, c'est important ça. Ouais. Ouais, l'envoyé, c'est ça. Il est envoyé par...
Par un autre.
Voilà.
Donc, il nous parle d'un autre et il nous révèle un autre. Bien. Je reviens sur cette mention-là de l'auteur qui nous dit « Siloé », ça signifie « envoyer ». Quand un narrateur fait ça, il, au fond, il parle à son lecteur par-dessus la tête des personnages. Hein, et il établit comme une connexion directe entre lui, qui est en train d'écrire, et nous, en nous disant « oubliez pas hein, », ou alors si vous ne le savez pas, je vous le dis, « Siloé », ça veut dire « envoyer ». Bon, quand je parle comme ça, je suis un petit peu plus dans les termes de l'analyse narrative. On perçoit ça en analyse narrative comme une sorte d'avertissement donné au lecteur. Hein. Il nous avertit. Attention, hein, les mots peuvent vouloir dire autre chose. Siloé, ça ne veut pas seulement dire siloé, ça veut dire envoyer. Il y a un deuxième degré, là. C'est comme un appel à voir plus loin, je dirais, une sorte d'éveil à la lecture symbolique.
Ah, c'est ça. Il nous envoie un signal clair, si on peut dire.
Hein? Oui, qu'il y a du symbole.
Ouais, il y a du symbole.
Il y a du symbole dans les rites, il y a du symbole dans les mots. Et c'est comme une compétence de lecture qu'il nous donne en disant « N'oubliez pas de vérifier, il peut y avoir du deuxième degré. » De toute manière, c'est une caractéristique de l'Évangile de Jean. Cet attachement à la richesse du langage symbolique. Et particulièrement à propos des miracles, que Jean va désigner plus volontiers par le mot « signe ». Il n'emploie pas le mot « miracle », il emploie le mot « signe ».
Donc, ça signifie « autre chose ».
Voilà, comme « siloé » signifie « autre chose ». Alors, le miracle est là, non pas pour qu'on le regarde lui, mais pour qu'on voit ce qu'il signifie. Et c'est éclairant pour la deuxième étape du récit, parce qu'on s'aperçoit que dans toutes les discussions, finalement, les gens bloquent toujours au premier niveau, hein, sur le fait brut de la guérison. Est-ce qu'il était vraiment aveugle? Est-ce que c'était vraiment lui? Est-ce que c'est une vraie guérison, le genre de question qu'on se pose aujourd'hui?
Bien sûr.
Et voilà, les pharisiens vont se bloquer, eux, sur la matérialité de la loi, je dirais, de la Torah au premier degré, la lettre de la loi. Il a guéri un jour de sabbat, c'est pas permis. Donc, vous voyez, on reste tous
ça
les décolle, personnages.
Ça décolle pas, finalement.
C'est ça, exactement. Et c'est le problème de tous les personnages dans la deuxième section, de rester au premier niveau. Nous, on a été avertis comme lecteurs de ne pas rester comme eux.
Ouais, on a eu l'avertissement.
Niveau, hein.
Ouais.
On est invité à voir plus loin, à voir autrement. Je dis voir. C'est évident qu'on est dans un récit où les verbes et tout le vocabulaire de voir est très présent, ce qui est normal. Il s'agit d'une guérison d'aveugle. Mais en grec, c'est comme en français. Hein, voir, c'est comprendre aussi. Quand on dit, par exemple, tu vois ce que je veux dire, c'est clair qu'il ne s'agit plus de voir avec les yeux, mais avec l'intelligence. Hein. Et donc, le narrateur nous avertit, là, finalement, la guérison qui est opérée, elle guérit le voir. Elle guérit la façon de voir. C'est une guérison qui fonctionne aussi au deuxième degré. Hein, d'ailleurs, le seul personnage qui décolle, pour employer le mot que vous venez d'utiliser, le seul personnage qui décolle du premier degré, c'est l'aveugle.
C'est déjà l'aveugle. Ah, ouais. Oui. Ouais, qui va dire à un moment donné, il dit l'homme qu'on appelle Jésus.
Ouais.
Puis après ça, une deuxième étape, c'est un prophète.
C'est un prophète. Et déjà, il voit plus. Hein, parce qu'il est questionné, finalement, parce qu'il est... amené à défendre ce qu'il a vécu, il va dépasser le fait brut. Et dans ce sens-là, ça veut dire que le miracle va lui advenir comme un signe. Hein? Il va finalement progresser avec, je dirais, une nouvelle lumière. J'essaie de rester dans la symbolique « Je suis la lumière du monde ». L'aveugle va voir autrement à la lumière de cette expérience et aussi de son contact avec Jésus. Il va voir qu'il y a autre chose à observer, il y a autre chose à découvrir que la simple guérison de ses yeux.
Mais en somme, c'est ce que vous dites, c'est que la guérison factuelle des sept premiers versets est comme commentée à travers tout ce qui va suivre. Là.
Oui.
C'est la lumière progressive qui fait son chemin, quoi.
C'est ça. Comme si l'aveugle...
qui fait progressivement son chemin,
n'était
plutôt.
N'était pas guéri, finalement,
voilà.
Mais allait guérir progressivement.
C'est ça.
Et là, évidemment, quand je dis ça, je parle du deuxième degré, c'est-à-dire du sens symbolique de la guérison, qui est, on a été prévenu par le narrateur, plus important que
plus important
la guérison
que
des yeux.
Que les yeux physiques,
c'est
là,
ça.
C'est ça.
Si Jésus est la lumière du monde, il amène l'aveugle à voir les choses autrement. Je rappelle juste que la lumière, c'est pas fait pour être regardée.
Et là, on rejoint Confucius, hein, quand quelqu'un lui désigne la lune en la pointant du doigt, le sot regarde le doigt.
Oui, c'est ça. Alors, le miracle est comme le doigt, pour Jean et pour les autres évangélistes, hein, il signifie autre chose. Si je ne regarde que le miracle, je regarde c'est le ça. Doigt. Même chose quand on dit Jésus, lumière du monde, ça veut dire qu'il éclaire les choses et on les voit autrement. On ne regarde pas la lumière, sinon
c'est
on
ça.
Est ébloui, on
c'est
voit
ça.
Plus rien. Et l'aveugle reçoit cette lumière qui l'amène à voir les choses autrement. Il ne regarde pas la lumière, il voit autrement grâce à la lumière. Il entre petit à petit.
Ouais.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toute cette deuxième étape-là, à mesure que lui voit de mieux en mieux, les autres personnages voient de moins en moins. C'est-à-dire,
c'est bien.
Quand tu refuses de t'ouvrir à un autre regard, finalement, c'est comme si ça t'endurcit dans le regard que tu as déjà, le regard au premier degré. Et ça devient de plus en plus difficile de voir autrement. Et donc, ils deviennent plus aveugles. Alors que lui va progresser jusqu'à, dans la dernière étape, la confession de foi. Au Fils de l'homme, il voit en Jésus le Fils de l'homme.
Ouais, parce que la première conversation avec les pharisiens est bon, ça va assez bien, mais comme vous dites, plus ça avance dans les ça devient polémique et carrément ça casse quoi.
Oui, c'est ça.
Il se fait foutre à la porte
là, lui. Et grâce à cette adversité là, je crois bien il y a aussi un facteur qui l'amène à découvrir un autre sens. C'est bon de se le rappeler parce que on s'imagine avec l'expérience d'aujourd'hui que c'est plus difficile de croire dans un monde qui fait pas l'unanimité autour de la foi dans l'Évangile, mais si on suit le parcours de l'aveugle, on voit que c'est l'adversité et le non-croire qu'il rencontre qui l'amène à comprendre beaucoup mieux ce à quoi il croit et à approfondir son regard là-dessus. Alors, je trouve que là, c'est peut-être moins reposant. Mais finalement,
non, mais c'est une piste intéressante,
ouais.
Ça. Piste
Alors,
intéressante.
Ouais. Bon, si on prend juste les étapes ou les quatre temps de conversation dans la deuxième grande étape, hein. Au début, si vous l'avez dit, l'aveugle ne voit en Jésus que cet homme
c'est
qu'on
ça.
Appelle Jésus.
Cet homme qu'on appelle Jésus.
Et il est comme tout le monde au niveau des faits bruts, hein. Il m'a dit de faire ça, il a fait telle chose, j'ai fait ce qu'il m'a dit et j'ai retrouvé la vue. Bon, on est au niveau premier degré, les faits bruts. Dès que le cas est soumis aux pharisiens, et on est rendu au verset 13 à 17, c'est soumis aux pharisiens à cause du fait que la guérison a lieu un jour de sabbat. Hein. On a la même question. Comment est-ce qu'il a fait ça? C'est la même question que le petit bout d'avant. Même réponse, il va résumer les faits. Sauf qu'ici, le débat va sur un terrain plus problématique. Jésus a transgressé la loi. Et c'est vrai. Si on prend la lettre de la loi, on peut soigner quelqu'un qui est mourant. L'aveugle-né n'est pas mourant. Jésus aurait pu attendre à demain. C'est sûr que ça complique les choses qu'il a guéri cet homme le jour du sabbat. Le récit est assez subtil ici. Hein? Je dirais que nous, on a tendance à toujours mettre tous les pharisiens dans le même sac, comme s'ils pensaient tous de la même manière.
Mais non, il y a une division entre eux, effectivement.
Oui, et si nos auditeurs veulent aller lire chapitre 7, chapitre 8, on s'aperçoit, et la suite aussi au chapitre 10, qu'il y a des divisions. Hein? Les pharisiens ne sont pas unanimes. Il y a des avis partagés. Il y en a ici qui vont dire cet homme ne peut pas être un homme de Dieu, bien sûr, puisqu'il a transgressé la loi. Mais d'autres vont dire oh, attention, est-ce qu'un homme pécheur serait capable de guérir comme ça? Alors, le fait qu'il y a des avis partagés nous montre que ça pose la question du sens. C'est-à-dire, on n'est pas dans le registre de l'évidence. Puisque on peut avoir deux opinions différentes sur le même fait, on vient de changer de registre. Tant qu'il s'agit des faits, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment interprète-t-on cet événement? Il y a plusieurs possibilités. Et les pharisiens illustrent ça. Et la question posée à l'aveugle aussi montre qu'il faut qu'on passe du niveau des faits au niveau du sens. La question, ça n'est plus qu'est-ce qui s'est passé, c'est toi, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu dis de l'homme qui t'a guéri? On pourrait la traduire autrement. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça, si je veux
Alors,
revenir
c'est ça,
au jeu avec le mot « voir ». Comment tu vois ça?
Alors déjà, son regard devient plus plus profond.
Oui.
Et là, maintenant, on passe de... cet homme qu'on appelle Jésus, mais lui, maintenant, suite à cet échange, oui. si on peut dire, là, oui. on voit que la lumière fait son chemin.
Oui.
C'est un prophète.
Oui.
Carrément.
Comme
la Samaritaine le dimanche passé.
Oui.
Hein,
elle va dire que tu es un prophète.
Voilà. À commencer par dire que tu es un juif, puis qu'est-ce que tu as à me donner à boire. Puis à un moment donné, elle va dire, ben, je vois que tu es un prophète.
Mm-hmm. Exactement. Je rappelle que c'est la question posée au niveau de la signification. Hein, qu'il l'a... Il n'y a pas de pensée magique là-dedans. C'est tant qu'on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il reste au premier degré. Quand on lui demande qu'est-ce que tu en penses,
okay.
il accède mm-hmm. à... Parce que l'effort est sollicité. De faire du sens, il fait du sens. Il accède. Ça serait faire du sens que de dire c'est un pécheur aussi, hein, mm-hmm. ou c'est un prophète. Moi, je trouve ça intéressant au plan de l'éducation de la foi. C'est quand on demande aux gens de se faire une idée qu'ils accèdent à un niveau un peu plus profond. En tout cas, ça, c'est quand je pars comme ça, je reflète l'idée d'un qui était mon mentor en éducation de la foi au diocèse de Saint-Jean il y a longtemps, qui était Gilles Raymond, qui montrait comment dans ce récit, on a le parcours d'un croyant qui est amené à assumer la responsabilité d'interpréter en son propre nom sa tradition croyante, finalement. On est dans un monde de croyants, hein? Faut pas perdre ça de vue. Les foules, les parents, l'aveugle, les pharisiens sont des croyants. Et cet ex-aveugle, il est placé devant plusieurs manières de voir les choses, un peu encore là comme aujourd'hui dans l'Église. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Alors, il est bien obligé d'essayer de se faire une idée. Et se faire une idée, c'est une tâche d'adulte dans la foi. C'est une tâche d'adulte croyant. Et on va voir dans la suite du récit, enfin même si on le voit pas ici, les gens peuvent le voir dans le récit, que l'interprétation institutionnelle qui est incarnée par les pharisiens a du mal à intégrer la nouveauté du présent. Là, il y a un œuf là. Ouais. Quelqu'un arrive, guérit un homme ouais. le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une nouveauté.
C'est une nouveauté.
Et
ouais.
chez eux, la manière conservatrice d'interpréter la loi va finalement l'emporter. Hein, dans la section des versets 18 à 23. On voit les parents de l'aveugle qui vont céder devant le poids de cette interprétation institutionnelle par la peur d'être rejetés. Ils vont s'en cantonner aux faits, les parents. On sait qu'il est aveugle, on sait qu'il voit maintenant. Pour le reste, à vous de voir, nous, on ne se prononce pas. Ils se défilent devant la tâche interprétative. Et ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils disent de l'aveugle. Et je trouve ça éclairant aussi pour le parcours du croyant adulte. Ils vont dire de l'aveugle, il a l'âge pour répondre. Il a l'âge pour penser par lui-même.
Un autre message, là.
Oui, je ouais. crois. Il a l'âge pour interpréter, pour ouais. assumer. Ouais. Ce qui est curieux à ce moment-là, c'est qu'eux acceptent d'être infantilisés, c'est-à-dire de ne pas avoir d'opinion personnelle, ou s'ils en ont une, de ne pas la dire. C'est être maintenu dans l'infantilisme. Alors que l'aveugle, plus l'adversité va se développer, au verset 24 à 34, plus
là,
il va devenir clair.
Ouais, là, ça va être une discussion, oui. vraiment une polémique.
Ah
là,
oui.
Puis il va se faire foutre à la porte. Là.
Oui, mais ouais. Finalement, c'est une perte pour un gain. Il gagne en responsabilité personnelle. Il s'est construit une opinion. En termes de l'Évangile de Jean, on peut dire il voit plus clair, c'est-à-dire qu'il voit les choses à la lumière de celui qui l'a guéri. Mais en termes d'adulte croyant, c'est clair qu'il acquiert une sorte de liberté, je dirais. Une liberté qui se manifeste dans l'ironie. Il faut dire que l'Évangile de Jean utilise volontiers l'ironie un peu partout. Ici, c'est assez remarquable. Plus les pharisiens disent qu'ils savent, plus nous, on se rend compte qu'ils ne savent rien. Nous savons, nous, ce que Moïse a dit. Lui, nous ne savons pas d'où il est. Et le lecteur se dit, puisque le lecteur est chrétien, évidemment, eux, ils ne savent pas d'où il est. Lui, il est de Dieu. Ils ne veulent pas le savoir. Alors, il y a une sorte d'ironie puis de complicité, je dirais, qui se crée entre le lecteur et l'aveugle, qui rit d'eux un petit peu en disant « Comment, vous voulez être ses disciples, là? Vous aussi? » Pourtant, on sait bien que Dieu ne peut pas, accéder à la prière de quelqu'un qui serait un pécheur. Alors, ouais, plus ça va, plus on est amené, comme lecteur, dans la complicité de cet homme qui voit de mieux en mieux et de plus en plus clair et qui conquiert, je dirais, une liberté interprétative, qui est aussi une responsabilité interprétative face à l'institution.
Jusqu'à ce qu'il se retrouve seul devant Jésus.
Oui.
Et là, c'est Jésus lui-même qui va lui dire...
Crois-tu au Fils de l'homme?
Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il?
Oui.
C'est moi qui te parle.
Voilà. Et Jésus, donc, l'amène plus loin. Mais peut-être qu'il n'aurait pas pu l'amener là au moment où il l'a guéri la première fois. Peut-être qu'il fallait que le cheminement soit fait pour que Jésus puisse l'amener à cette foi plus profonde en lui.
Bien. Alors, j'invite nos auditeurs et auditrices à aller eux-mêmes donc à ce texte qui est situé au chapitre 9 donc de l'Évangile de Jean. Et nous, vous et moi, Francine, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec le beau récit de la résurrection de Lazare. Alors, vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Celui qui vous parle s'appelle Claude Julien. À la technique, Alain Primo. Et tous, eh bien, nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine à notre antenne. Et surtout, soyez avec nous samedi prochain à la même heure.